Mes frères et sœurs, bonjour. Vous connaissez la raison pour laquelle nous sommes réunis. Nous ne sommes pas réunis pour parler politique, pour parler élection. Nous ne sommes pas réunis pour parler opinion. Nous sommes réunis pour adorer le Seigneur, le Dieu le Père, Jésus-Christ son Fils, et nous sommes aidés par cela, par la puissance du Saint-Esprit. Frères et sœurs, il y a une réunion qui est différente de tous les autres. C'est le culte. Rendre un culte à Dieu, ça signifie être attiré par la personne de Dieu. Ne voir que le Seigneur. D'avoir nos yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Si bien que la réunion de prière, elle, nous incite à étudier un peu la parole, un peu beaucoup, et puis à prier les uns pour les autres et à faire connaître nos besoins et notre intercession. Mais le culte doit être réservé à la louange et à l'adoration. Ouh. Savez-vous pourquoi je dis ça? Bien. Eh bien, pour deux raisons, on va lire, si vous le voulez bien, dans la première épître de Jean, au chapitre 3, et nous lirons au verset premier, si vous le voulez bien, verset que tout le monde connaît, où le Saint-Esprit nous invite à quelque chose. Il nous invite ce matin à une attitude, 1 Jean 3, 1, vers la fin du Nouveau Testament, un petit peu avant l'Apocalypse, la première épître de Jean, dernier apôtre qui a été le plus vieux, voici ce qu'il écrit. 1 Jean 3, 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur, et nous pouvons dire... Frères et sœurs, ce matin, puisque je vous disais, la personne la plus importante, c'est pas nous et nos besoins, c'est la personne de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et regardez le Verbe. Le Saint-Esprit, dans 1 Jean 3, s'adresse au peuple de Dieu et lui dit « Voyez ». Le Seigneur, ce matin, nous invite à voir, non pas la cravate du pasteur, non pas le chapeau ou le foulard que la sœur a sur le côté, mais Dieu nous invite à voir quoi? L'amour du Père. Et il ne faut pas se tromper. Parce que pour que je puisse dire, Seigneur, je te loue, je t'adore, il faut que je le connaisse. Et si je le connais, donc j'ai des éléments pour le louer, pour l'adorer. Voyez de quel amour le Père nous a témoigné. Et je voudrais, frères et sœurs, regarder une parabole, mais alors archi connue, pour expliquer ceci. Jésus est venu sur la terre. Le croyez-vous? Un oui plus fort. Hein? Jésus est venu sur la terre. Virgule. Pourquoi? Pourquoi est-il venu sur la terre? Pour chercher et sauver ceux qui étaient très bien. Est-ce que vous pensez que c'est tout? Ah, pasteur Claude est là. Et c'est pas tout. Et des fois on l'oublie ça. Il est venu pour nous révéler quelqu'un. Il est venu pour nous révéler le Père. Il a dit, personne n'a jamais vu le Père. Dieu est invisible. On ne peut pas voir Dieu et vivre. Mais le Fils, qui était dans le sein du Père, est descendu et il nous a fait connaître le Père. D'ailleurs, dans sa prière, avant d'être arrêté, Jésus dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes. Et c'est pas Yahvé, c'est pas Adonai, c'est joli à la prononciation, c'est Père. Et c'est le nom que Dieu veut qu'aujourd'hui nous prononcions, mon Père. Et c'est la raison pour laquelle Jésus est venu chercher et sauver les hommes et les femmes dont nous sommes partis, pour que Dieu soit vraiment notre Père. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Je pense, frères et sœurs, que vous êtes toujours encouragés, toujours tout va bien, vous êtes joyeux du matin au soir, du 1er janvier au 31 décembre. Avez-vous remarqué que des fois, il y a des hauts et il y a des bas. Et des fois même, il y a plus de hauts que de bas, mais des fois même, il y a des très bas. On est découragé. Et c'est peut-être parce qu'on n'a pas compris cette deuxième vérité. Jésus nous a dit, je suis venu vous révéler le Père. Regardez les Juifs, Israël. Quand il est en Égypte, Dieu dans sa grâce, pour le libérer, envoie des plaies sur le peuple égyptien et pour toucher le cœur de Pharaon, rappelez. Et le peuple de Dieu a été gardé. À la fin, lorsque l'ange destructeur est venu frapper tout, il n'a pas frappé le peuple d'Israël. Pourquoi ? Parce qu'il avait mis le sang sur les poteaux de la porte. Vous me suivez ? Ensuite, après cette grâce de Dieu, cette protection de Dieu, ils étaient quand même encore en Égypte. Alors il a fallu qu'ils sortent. Ils sont sortis d'Égypte, faire un deuxième pas, et ils se sont trouvés devant la mer Rouge. Et là, Dieu a fait un miracle exceptionnel pour leur montrer qu'il suffit que Dieu souffle pour que la mer s'ouvre et que tout le peuple passe. Croyez-vous que c'est vrai ? Mes frères et sœurs, n'est-ce pas là l'image de Jésus-Christ crucifié ? Car lorsqu'il est mort sur la croix, le grand rideau, qui était beaucoup plus fort que la mer, a été déchiré depuis le haut jusqu'en bas. Qui c'est qui est en haut ? Voilà. Donc, alors ils ont été, alors là, heureux. Quand ils étaient en Égypte, gardés, ils avaient la paix, mais quand ils ont pu traverser la mer Rouge, ils ont été heureux. Quel culte, mes frères et sœurs ! Quel culte ! Il n'y avait peut-être pas de sono, mais il y avait des chants, il y avait de la musique, il y avait des prophéties, et ils chantaient sur les bords de la mer Rouge. Ils étaient joyeux. Seulement, mes frères et sœurs, quelques jours après, cette joie de la bonne réunion, elle a disparu. Ils se sont retrouvés devant Mara. Ils ont bu de l'eau. Ils ont pensé que c'était très bien maintenant. Dieu est avec nous, il n'y a plus de problème. Ils se sont permis n'importe quoi. Ils ont attrapé une dysenterie, mais quelque chose de bien. Vous êtes d'accord ? Il a fallu que Dieu fasse un miracle de la croix pour, avec le bois, transformer l'eau. Bon, ils ont vu le miracle. Alors, ils ont continué. Donc, ils ont vu le miracle. Ils ont été gardés en Égypte, et par la grâce de Dieu, la mer s'est ouverte, mais ils sont restés là sur les bords, ils ne sont pas encore rentrés dans toute la plénitude de Dieu. Alors ils avancent un petit peu, et là ils voient le Sinaï, tout en feu, la terre qui tremble. Ils ont pour la première fois devant les yeux la glorieuse puissance du Dieu vivant et vrai. Une bête pouvait toucher la montagne, elle mourait. Personne n'avait le droit. C'était exceptionnel de voir cela. Ils l'ont vu. Croyez-vous qu'ils l'ont vu ? Eh bien, le même peuple, quelques jours après, il s'est fait des idoles. Il s'est prosterné devant un veau d'or. Le même peuple qui a été gardé en esclavage, qui a passé la mer Rouge, qui a été béni par sa désobéissance malgré tout dans les eaux du Marat, et qui après avoir vu la gloire de Dieu sur le Sinaï, eh bien il est retombé dans l'adoration des idoles. Et mes frères et sœurs, il y a des chrétiens, des enfants de Dieu qui ont confessé le nom de Jésus dans les eaux du baptême et qui se sont arrêtés à la mer Rouge, tous leur vie chrétienne, saint. Jésus m'a sauvé, Jésus m'a sauvé. Mais il m'a sauvé pourquoi ? Pour que je puisse voir quel amour le Père a envers moi. Car mes frères et sœurs, toutes les épreuves de la vie, on pourra les supporter si on a bien une vision de l'amour que Dieu a pour nous. Si on n'a pas cette vision-là, alors on aura des hauts et des bas. Alors pour comprendre l'amour de Dieu, je vous propose une lecture archi connue. Ah oui, je peux la lire par cœur, mais je vais la lire avec vous. C'est dans l'Évangile, selon Luc chapitre 15. Vous connaissez la fameuse parabole que Jésus donne alors qu'il y a des publicains qui sont là, des gens de mauvaise vie. Il donne cette parabole aux pharisiens, donc il y a des gens religieux. Luc 15. Vous savez, c'est l'histoire d'un père qui avait deux fils, c'est Jésus qui le dit. Il y en a un qui prend sa part de bien parce que le père veut bien lui donner, et il s'en va, il quitte son père et il vit dans la débauche. Il liquide tous les biens de son père. Puis après, il sent dans le besoin, il n'avait personne. Il a besoin de manger, il n'avait personne. Et c'est à ce moment-là qu'il est rentré en lui-même. Moi, je crois que c'est le Saint-Esprit qui a dû agir dans sa vie. Parce qu'il dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain ? Et moi, fils, je mords de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché. » Mes frères et sœurs, on peut dire ça que si on est convaincu par le Saint-Esprit. Sincèrement. Parce qu'on dira, « Oui, j'ai péché, mais... » Mais quand le Saint-Esprit nous convainc, nous sommes pécheurs, il n'y a pas de problème et il n'y a pas de mais. J'ai péché contre toi. Alors il s'est levé, il a été vers son Père. Et regardez, alors là c'est là qu'on va voir l'amour de Dieu. Regardez bien, chapitre 15, vous l'avez ? Verset 21, pour mieux le comprendre, verset 20 plutôt. Alors il se leva et il alla vers son Père, comme il était encore loin. Son père le vit et fut ému de compassion. Troisièmement, il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit, « Vite, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt, des souliers aux pieds, parce qu'il n'avait plus. « Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir, et si vous voulez bien, on peut dire, voilà l'amour de Dieu. Regardez bien, nous avons connu l'amour du Père et nous y avons cru. C'est pour ça que vous êtes là ce matin et moi aussi. Nous avons cru à l'amour de Dieu. Mais il faut bien sûr aussi bien le comprendre, l'amour de Dieu, pour pouvoir tenir dans les moments difficiles. Regardez la révélation que Jésus donne. Jésus a dit, quiconque m'a vu, a vu le Père. Et je révèle le Père à qui je veux. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Tout en étant deux personnes. Jésus a donc eu comme mission de nous sauver et ensuite de nous révéler le vrai visage de Dieu. Imaginez, frères et sœurs, que Néron, c'est même l'empereur romain, qui était fou, à moitié fou, un jour brûle les quelques manuscrits des évangiles de l'époque et que des archéologues viennent derrière et puis cherchent dans les cendres quelques textes et ils trouvent un texte, un petit bout de texte qui est écrit « Dieu est ». Dieu est, mais tiens, il n'y a rien derrière. Dieu est, il cherche. Puis il retrouve un autre mot après, amour. Ah, Dieu est amour. Comme disait ce grand personnage grec, Eureka, j'ai trouvé la vraie signification de mon Dieu. Il est amour. Ça ne veut pas dire que tout est permis, au contraire. Ça veut dire que tout est possible. Que Dieu peut faire des choses impossibles dans nos vies. C'est ça que ça veut dire. Regardez. Jésus, donc, prend cette parabole qu'il adresse à des croyants, et non pas des incroyables, des croyants. Et ces croyants, ce sont des pratiquants. Les pharisiens, attention, la lettre, c'est la lettre. Dieu avait donné 10 commandements, c'est vrai? Et eux, ils en ont créé 613. Quel visage Jésus donne-t-il de Dieu? Il est écrit ceci, « Son Père le vit, alors qu'il était encore très loin. » Et ça, c'est la première image de l'amour de Dieu. Un Père qui attend. Frères et sœurs, vous et moi, Dieu, c'est notre Père, et c'est un Père qui attend. Qui attend depuis des temps que vous, que moi, je puisse faire un nouveau pas vers lui, je puisse grandir avec lui. Un Père qui attend, parce qu'il est écrit, quand il était encore loin. Et cela nous parle des yeux de notre Père. Les yeux de notre Père sont fixés sur nous, non point pour nous accuser, nous taper dessus, nous exclure, mais pour nous sonder, pour regarder les sentiments de notre cœur. Et cela, frères et sœurs, vous ramène à connaître, vous savez, Romains 5. Quand nous étions encore, oui, sans force, qu'est-ce qui s'est passé? Christ est mort pour nous. Quand nous étions sans force. Il y a une autre version qui dit, quand nous étions incapables de nous en sortir nous-mêmes, Christ est mort pour nous. Et dans le même chapitre, Paul écrit, alors que nous étions encore pécheurs,
Christ est mort pour nous.
Avant que vous et moi nous naissions sur la terre, Christ a donné sa vie pour nous. Il y a des siècles et des siècles, et c'est cela qui doit nous amener à l'adorer. Tu es le Père qui attend. Qui attend pour se révéler. Et il a des yeux qui te regardent, et son amour ne dépend pas des circonstances que tu fais, mais son amour dépend de son sentiment vis-à-vis de toi. La deuxième chose qui est intéressante, c'est que le Père dont parle Jésus là, il est écrit, son Père le vit de loin, et il eut une compassion. Un Père qui voit, et Dieu c'est un Père qui compatit. Qu'est-ce que veut dire le mot compatir? Il veut dire ressentir. Nous avons un Dieu qui ressent notre douleur. Il ressent nos fautes. Il ressent nos mauvaises paroles. Il ressent tout ce qui peut aussi nous blesser. Il est, non pas, c'est pour ça que Dieu est contre les statues. Et vous? Et les personnages en images. Parce qu'une statue, même si c'est la statue de, je sais pas, quel personnage religieux, c'est une statue qui ne bougera pas. Vous pouvez pleurer devant. Ça va pas couler, hein. Vous pouvez réclamer la grâce, sa main va pas agir. Mais notre Dieu est un Dieu vivant. Non seulement il a des yeux, mais il a un cœur. Une statue n'a pas de cœur. C'est froid. Tu ne te prosterneras pas devant les images taillées de toutes les choses qui sont représentées. C'est pour ça que notre assemblée est démunie de toutes ces choses. Le croyez-vous? Bon, alors. Père qui attend, un Père qui a compassion, ça c'est son désir. Parce que le désir de Dieu, Père, mes frères et sœurs qui êtes découragés, le désir du Dieu Père, le plaisir du Dieu Tout-Puissant, c'est d'être avec vous. Le plaisir de Dieu, c'est que nous soyons avec lui. Jésus a dit, moi en eux, toi en moi, et moi en eux, et eux en nous. Le grand désir de Dieu, ma sœur, mon frère, au lieu de penser que le diable est en train de t'attaquer, pense que le plaisir numéro un de Dieu, c'est qu'il soit plus près de toi. Alors il y a un texte écrit 7 siècles avant ça, je crois que c'est Ésaïe, où Dieu dit, ouais, je vois ce que tu fais. Chapitre 30, Ésaïe. Vous lirez, c'est formidable. Moi j'ai reçu ce matin 4 heures. Le verset 18, du chapitre 30. Dieu dit, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Et ça commence comme ça. Vous êtes bien assis? Dieu dit, toutefois, je désire vous faire grâce. Vous ne trouvez pas que c'est fort? Dieu connaît bien nos failles. Et il dit, toutefois, je désire. Je désire vous faire grâce. Pourquoi? Mais ça va très, très loin. Il désire nous faire grâce parce qu'il veut nous rendre heureux. Et lisez, frères et sœurs, chez vous, Ésaïe, chapitre 30, verset 18. Crattez-le sur votre Bible, et quand vous avez des coups de difficulté, rappelez-vous que Dieu désire toujours nous faire grâce. C'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est par grâce que nous avons le pardon de nos péchés. Et l'Écriture nous dit, oui, Dieu veut que nous soyons près de lui, c'est son désir. Et la troisième chose qui est remarquable dans l'amour de Dieu, c'est ses yeux. La deuxième, c'est compatissant, il ressent. Que nous ressentons. Des fois, vous dites, et une fois je dis, Seigneur, personne ne sait ce que je souffre. Si, si, faut pas dire ça. Lui, il sait. Il est plein de compassion. Mais regardez la troisième chose. Après nous avoir parlé des yeux, après nous avoir parlé du cœur, le Saint-Esprit nous parle des jambes et des bras de Dieu. Dieu court. Le Père court. Le Père court et prend dans ses bras, embrasse. Qui? Son Fils. Ah, attendez. Vous ne trouvez pas, ça c'est un peu lourd. Dieu embrasse un prodigue. Quelqu'un qui s'est détourné. Et l'Épître nous dit, non seulement il court pour réduire le temps, pour être le plus près possible, et plus vite possible, ensemble, parce qu'il connaît ce besoin de bonheur. Regardez, il y a une autre parole. Et il embrasse. Il embrasse son fils. Ça vous semble pas drôle, ça? Frères et sœurs, il sort d'où le fils? D'une porcherie. Et il vivait avec les porcs. Je suis dans un département paysan, il y a des étables et il y a des porcheries. Et je peux vous assurer que quand vous en passez devant certains, vous avez un baume fermier. Il l'embrasse. Il ne dit pas, écoute, non, je t'aime, alors tu viens, c'est formidable. Bon, écoute, Tu vas te laver, on va te faire un bon bain, tu vas te changer, parce que ça pue. Et puis alors après, je fais un bisou. Vous savez, comme on dit, quand on était petit, moi je me rappelle, ma mère me disait, mouche ton nez pour dire bonjour à la dame. Et là, Dieu ne dit pas à son fils qui revient repentant, hein, tu sais, avant que je te fasse un bisou, attention, hein, je veux voir, hein, es-tu vraiment sincère? Comment ça? Monsieur Haroux, vous prêchez la liberté? Attendez. Et c'est Dieu qui l'embrasse. Mais mes frères et sœurs, si Dieu l'embrasse, c'est parce que Dieu voit son cœur. Et on ne cache pas son cœur à Dieu. Si Dieu l'embrasse, parce qu'il a vu son cœur, et il a vu que son cœur était vrai. Sinon, il ne l'aurait pas fait. Frères et sœurs, nous basons tellement à l'apparence. Et c'est tellement vrai, même qu'un homme de Dieu dans l'Ancien Testament, je crois que c'est Samuel, hein, qui était à la recherche d'un roi, et quand il a vu les frères de David, l'aspect, il a dit, oh, c'est cela. Et Dieu lui dit, chut, 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 je ne regarde pas à l'apparence. Et je me dis, si le père a embrassé le fils, si le père n'a pas attendu qu'il se lave, mais l'a embrassé dans sa saleté, c'est parce qu'il avait vu dans son cœur qu'il était sincère et vrai. Ma sœur, mon frère, ce qui compte ce matin pour Dieu, c'est que tu sois vrai, sincère et honnête. Et si ces choses-là sont là, avec tes mauvaises odeurs, eh bien Dieu va t'embrasser et tout le reste va s'en aller. Oui, voyez quel amour le Père a témoigné. Mon Père, je suis pas digne de rentrer. Voilà ce qu'il dit à son Père. Et avez-vous vu la réponse du Père? Oui, c'est vrai, t'as raison, t'es pas digne. Oui, c'est vrai, je vais t'éprouver. Non. Alors, il a entendu ce qu'il n'avait jamais pu entendre, des lèvres de Dieu. Après l'avoir embrassé, savez-vous ce que Dieu lui a dit? Le Père lui a dit. Qu'est-ce qu'il lui a dit, le Père? Ça va? C'est ça, l'amour de Dieu. Regardez, c'est écrit. Le Père dit à ses serviteurs, apportez doucement, apportez vide. Bon, l'une des robes, vous savez qu'on met plus là, hein, que je peux pas mettre, non, la plus belle. Non mais mes frères et sœurs, mettez-vous à la place du fils prodigue, qui revient vers son père, qui sent encore l'odeur du mal, qui a dans ses oreilles, il était habitué à entendre le grognement des porcs, il entend la voix de Dieu dire, la plus belle robe, c'est pour toi. Voyez quel amour le Père vous a témoigné pour que vous soyez appelés enfants de Dieu. Merci mon Dieu de nous avoir donné Jésus qui nous révèle le Père. Un Père qui, par la grâce de Dieu, nous montre son amour, il va et embrasse. Et l'embrasse beaucoup. Il ne cesse d'embrasser. Un peu comme la femme, vous savez, la femme pécheresse qui embrasse les pieds de Jésus. Oh le pharisien, oh là là, pas possible ça. Il est écrit, Jésus dit, elle ne cesse d'embrasser mes pieds. Eh bien, c'est le même mot. Le Père ne cesse d'embrasser son fils, qui pue, qui sent encore le porc. Pourquoi Dieu fait-il ça? Parce qu'il l'aime et parce que Dieu sait qu'au fond de son cœur, il est vrai et honnête. Voilà ce qui va plaire au Seigneur. Et cela m'amène à une deuxième richesse. Vous connaissez la deuxième richesse? La richesse de la grâce. Apportez vite la plus belle robe. Une robe, c'est fait pour quoi? C'est pour s'habiller. Et quand je suis habillé, ça recouvre quoi? Ma nudité. Dites frères et sœurs, la robe, il n'y a pas une robe de justice? Quand Jésus a donné sa vie, il avait une tunique. Et la plus belle robe, mes frères et sœurs, je vais vous le dire, c'est la justification que nous avons grâce au sang de Jésus. Je suis justifié. Je suis pécheur, c'est vrai, j'ai cassé, j'ai brisé, mais merci Seigneur, non seulement tu m'embrasses, non seulement tu me prends dans tes bras, mais tu me justifies, tu me rends juste, alors je ne mérite pas. C'est ça la grâce. Et puis, regardez la troisième chose, je la trouve formidable. La deuxième chose, il met une bague au doigt. Ça veut dire qu'il avait des mains, mais des mains sans richesse. Et la bague, c'est le nom du Père. C'est le nom de famille. C'est le nom qui permet de signer. On dirait aujourd'hui, c'est notre code secret. Vous avez une carte? Une carte bancaire. Bon, eh bien, vous avez un code secret. Est-ce que vous allez donner votre code secret à un fils qui vous a laissé tomber longtemps, qui a pris une partie de son héritage et qui vit avec les prostituées et qui revient aujourd'hui parce qu'il a faim, est-ce que vous oserez lui donner votre carte bancaire et votre code? Non, mais Dieu l'a fait, parce que Dieu a confiance. Mes frères et sœurs, donne-moi, Seigneur, d'avoir autant confiance en toi que tu as confiance en moi. Dieu avait confiance en Job, et quand Satan a attaqué, il a dit « Oui, oui, Job va désobéir », Dieu a dit « Touche-le », parce que Dieu avait confiance. Il y a un vieux cantique sur les ailes de la foi qui dit « Dieu peut-il compter sur moi ?» Oui, tu peux compter sur moi, mais par ton esprit, par sa grâce. Sinon, on peut pas. Ça, c'est la deuxième richesse. L'autorité, la puissance. Et la troisième, il n'a pas de pied. Pardon, il n'a pas de souliers. Il a des pieds, oui. Et les souliers, mes frères et sœurs, si on lui donne des souliers, c'est qu'il n'avait pas. Et à cette époque-là, ceux qui n'avaient pas de souliers, c'était des esclaves. Et là, vous connaissez le texte, il dit, ce que le Fils a franchi est réellement libre. Il lui apporte la liberté. Oh, ce matin, adorons-le, frères et sœurs. Voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons enfants de Dieu. J'ai pas le temps, mais regardez juste après. J'écoute pas le fils aîné, mais juste après, le Père, il dit, allez, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils était mort. Il est vivant, il était perdu et il est retrouvé. Ne trouvez-vous pas que ça, c'est extraordinaire? Venez et mangeons. La table de Dieu, elle est pleine, mes frères et sœurs. Le Christ a dit, je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Et quand Dieu donne, il donne toujours en abondance. À Cana, il a donné en abondance. Pas vrai? Oui. À la pêche de Pierre, il a donné en abondance. Au pain distribué à la foule, il a donné en abondance. Et le Seigneur m'a dit de te dire, mon frère et sœur, ça je le tiens de lui ce matin, de te dire que toutes ces richesses-là, c'est pour toi. Voyez quel amour le Père vous a témoigné pour que vous soyez appelés enfants de Dieu. Et regardez, entre. C'est plus le vêtement, c'est plus la robe, c'est plus la bague, tout ça est là, la liberté. Entre maintenant. Entre, car il y a une quatrième chose, c'est d'être à table, c'est-à-dire en communion. En communion. Et tout à l'heure, mes frères et sœurs, nous allons prendre la Sainte Cène, la table du Seigneur. Et là, nous allons trouver quelque chose d'infiniment grand, car Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Car, toutes les fois, vous annoncez la mort. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Regardez, c'est expliqué. Vous allez répondre. Quand je vais prendre la Cène avec vous, je vais vous rappeler ceci. Faites ceci en mémoire de moi, vous annoncez la mort du Seigneur. Frères et sœurs, un petit tour. La robe de justice que le Père a donnée à son Fils, qui sait qu'il l'a payée? Bien. La bague qui a été mise là, qui sait qu'il a mis cette alliance-là? Vous. Qui sait qu'il l'a payée, la fabrication? Jésus. Qui sait qui a payé les chaussures? Hein? Qui sait qui a payé le repas? En Jésus-Christ, j'ai tout trouvé. Et c'est lui que je veux adorer, mes frères et sœurs, par la puissance du nom du Seigneur Jésus. Il dit, ceci est mon corps, prenez-le, mangez-le, buvez-le tous, parce que quand tu prends le pain et le vin, tu te rappelles la mort du Seigneur. Et sa mort te donne la justice, sa mort te donne la bague, sa mort te donne le pardon, béni soit Dieu, sa mort te donne les chaussures, c'est-à-dire la liberté, la dignité, et sa mort te donne la joie. Alors souviens-toi que lorsque tu vas prendre le pain et le vin, tu prends le prix payé par Jésus pour que le Père soit satisfait et que nos péchés soient pardonnés. Souvenez-vous, frères et sœurs, que là où le péché abonde, qu'est-ce qui se passe? La grâce surabonde. Et avec Dieu, il y a toujours des comme ça. Des choses comme ça. Vous savez, par exemple, dans la prière, il dit tu pries et Dieu te donne la paix et la paix qui surpasse toute intelligence. Mais c'est pas tout, ça va même plus loin. Il est écrit dans la parole de Dieu que l'amour de Dieu surpasse toute pensée. La Bible de Dieu nous dit et que Dieu, il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander et souhaiter. Croyez-vous que c'est vrai? Eh bien, savez-vous ce que nous dit le Seigneur dans le psaume 100, verset 4? Entrez dans ma présence, avec des chants de louange. Frères et sœurs, il faut que vous quittiez le culte en disant « Je connais encore mieux Dieu ». Non pas parce que je suis meilleur, mais parce que Jésus, c'est lui qui me l'a révélé. Et le Saint-Esprit est là pour m'aider à reconnaître le Fils, afin que nous puissions vivre en communion. Dernière question, est-ce que vous êtes marié? Sous quel régime? Non, non, mais ne fais pas la main. Non, mais... non, ça ne me regarde pas. Contrat? Enfin, bref. Moi, je suis marié sous le régime de la communauté. Pas vous? Enfin, bref. Eh bien, la communauté, c'est ce qui est à toi, est à moi. Ce qui est à moi, est à toi. Et Pierre va dire à Jérusalem, à un pauvre bourg, nous n'avons ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Il s'est levé, il a marché. On va courber nos fronts. Voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Mes frères et sœurs, moi je ne peux pas vous dire, je ne sais pas pourquoi, dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi, par son sang, il efface ma dette et mon péché. On va courber nos fronts. Je ne sais pourquoi dans sa grâce. C'est écrit sur les camps. Jésus. Il efface quoi? Alléluia! Et mon péché. Et ce matin, mais je sais quand. De quoi? Comment? Qu'est-ce que je fais? J'attends l'heure de son retour. Voulez-vous vous mettre debout? Mais je sais. Allez-y. Holy Jesus. De mon péché. Et gardez. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, et malgré tout, je sais qu'un jour, God she peaceful on the world.